Alors, il est 6h exactement, nous sommes vendredi quand même. C'est la dernière journée de cette période de canicule, vendredi 29 mai, et on prévoit du temps généralement nuageux pour aujourd'hui. 40 % de probabilité d'averse en fin d'après-midi. Début de soirée, risque d'orage également, avec l'humidex à 37, donc c'est 30, mais avec le facteur de l'humidité, ça grimpe à 37. Samedi, demain, généralement nuageux. C'est une journée assez grise, pluvieuse. Encore là, ça demeure chaud, 22 degrés, l'humidex 26. Mais c'est nettement, évidemment, plus confortable que ce qu'on a connu dans les derniers jours. Et ça nous amène à peu près 5 mm de pluie, selon les projections. Finalement, dimanche, ce sera une belle journée, ensoleillée, 16 degrés. Et même pour lancer le mois de juin, lundi, on prévoit du soleil 19 degrés. On reparlera tantôt du cas d'André Boisclair avec mon ami Bernard, avec qui j'ai échangé un peu hier soir, quand on a appris la nouvelle dans l'après-midi. Mais d'abord, on va attendre de voir les faits et surtout l'issue du procès. Et je comprends pourquoi Marie-Laurence dit qu'il y a des gens qui sont étonnés et d'autres pas étonnés. C'est quelqu'un qui a eu son lot de problèmes, problèmes de consommation de drogue, problèmes également, alcool au volant, toutes sortes de rumeurs qui ont circulé sur lui alors qu'il était en politique ou même quand il était à New York comme délégué. On se souvient des propos de Jacques Duchesneau. Alors, il y a toujours eu cette espèce de parfum, de controverse, de scandale autour de lui. Et il en a payé le prix sur la place publique. Notamment, je me souviens de ses allégations de soirée de financement avec des gens qui, disons, trempait dans le crime organisé, puis que ça se passait dans des appartements à Montréal. Là. Disons que c'était une autre époque. Alors, dans le cas qui nous intéresse, on verra. Donc, agression sexuelle armée. Il y a une tierce personne qui pourrait être arrêtée en marge de cette affaire-là. Et on verra la suite des choses, évidemment, avec le procès. Bon, le dossier COVID, je dois vous dire que c'est sûr que ça fait beaucoup, beaucoup de directives. Chaque jour, quand on déconfine et on annonce, par exemple, que les terrains de camping, à partir du 1er juin, seront accessibles, puis on voit les propriétaires qui disent on n'est pas prêt, ça ne sera pas le premier, en tout cas pas dans tous les cas, parce que là, il y a des mesures à appliquer, il y a des installations à préparer, il y a de l'équipement à acheter. Et comme citoyen, tu regardes ça, tu dis, OK, ça, j'ai-tu le droit de faire ça? Je ne sais pas si vous faites cette expérience-là, mais moi, j'essaie de faire ça avec des collègues, entre autres ici, en disant, toi, cet été, vas-tu faire ça? Vas-tu aller au chalet de, je ne sais pas, moi, ton beau-frère, par exemple? Oh, je vais y aller. On va rester dehors, puis tu sais, on va... Mais tu sais que tu ne peux pas rester accouché. Ouais, ouais. Mais tu sais, j'ai beaucoup de ouais, ouais. Et on a vérifié hier, après l'entrevue avec la ministre Proulx, cette notion de couple, et je sais que ça touche beaucoup de gens. Il y a bien des gens, un, qui vivent seuls, et aussi des gens qui ont un amoureux, une amoureuse dans la vie, mais pour toutes sortes de raisons, ne vivent pas sous le même toit. Et là, tu as des projets de vacances ensemble qui remontent bien avant la COVID, et là, tu te fais dire que finalement, non, ça ne marche pas. Et quand ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'amitié, une question familiale, quelqu'un qui m'écrivait, tous les ans, avec ma sœur, on se loue quelque chose, puis on passe deux semaines sur le bord d'un lac au Québec, puis on aime ça, puis ça nous fait du bien. Mais comme ils ne vivent pas ensemble, ça ne sera pas possible. Et là, on comprend que la directive peut-être changer d'ici deux semaines, d'ici trois semaines. Mais c'est le temps de louer, là, si on commence le mois de juin. Je donne un autre exemple de directive. Comment ça peut être appliqué? C'est Radio-Canada qui a sorti ça. Écoute, c'est un monsieur qui vit dans une résidence soleil, qui a un rendez-vous à l'hôpital, à qui on dit qu'à son retour du rendez-vous à l'hôpital, il doit s'isoler pendant 14 jours. Alors, comprenez un peu la réaction des gens qui ne veulent plus aller à l'hôpital, qui ne veulent pas aller à leur rendez-vous parce qu'ils ne veulent pas se faire enfermer pendant 14 jours. Et évidemment, on est intervenu et cette consigne-là n'avait pas de raison d'être. Tu peux aller à ton rendez-vous et surtout, je dirais, tu dois aller à ton rendez-vous. Alors, Selon ce document qu'a obtenu Radio-Canada, distribué aux résidents d'au moins deux résidences Soleil, la consigne ne fait pas la distinction entre une visite à l'hôpital de moins de 24 heures et quelqu'un qui a séjourné à l'hôpital. Là, on ne parle pas de quelqu'un aussi qui est allé à l'étranger, là. Alors, on indique que les résidents ayant consulté pour un rendez-vous médical en centre hospitalier pourront, et ça c'est la directive du ministère de la Santé, réintégrer leur unité locative sans devoir s'isoler pendant 14 jours. Tu sais, là, là, il y a des zélés, il y a des gens qui interprètent ça de façon extrêmement, extrêmement sévère. Puis, je sais pas vous, là, mais comme adulte, comme personne, des fois, là, t'es un petit peu tanné de te faire prendre pour un enfant de 2 ans, là. Tu t'en vas voir le médecin, t'as un rendez-vous, puis là, si j'y vais, vous allez me garder enfermé pendant 14 jours, puis je pourrai pas sortir. Bullshit. Et ça aussi, ça commence. Et ça arrive dans un contexte où, un, les gens sont tannés, deux, on se fait dire, ben là, gardez le cap, là, puis... Et avec raison, là, on n'a pas envie de retomber. Je regardais hier Nouveau-Brunswick, on est obligé de faire une marche arrière parce qu'il y a eu des éclosions. On a vu la Corée. Tu sais, la Corée avait ouvert beaucoup, permettant les bars, les discothèques. Puis là, ils ont toujours refermé un peu. Et ce qu'on a vu comme tableau de l'Institut national de santé publique hier, c'était quand même assez encourageant. Ça demeure des modèles, mais les modèles qu'on a vus étaient, somme toute, plus positifs qu'au début du mois de mai. Donc, intéressant, dans la mesure où il y a une adhésion des Québécois à la distanciation, au port du masque et à un semi-confinement, donc avoir ses activités habituelles, perturbées ou ajustées, adaptées. Et que s'il y a une deuxième vague, ce serait peut-être au mois de juillet. Une deuxième vague veut dire plus de cas, plus de décès et une pression sur le réseau de la santé. Un réseau, et on ne le dira jamais assez, là, les gens sont fatigués, les gens sont épuisés. Pas juste les gens là, qui travaillent comme infirmières ou comme préposés, mais partout dans le réseau. Ça va des gens responsables des services alimentaires qui n'ont pas de congé, qui sont fatigués, des gens qui sont dans le domaine de l'imagerie médicale. Alors, il y a énormément, énormément de pression à venir sur le réseau, d'où l'importance qu'il n'y ait pas cette deuxième vague, ou en tout cas qu'elle soit sous contrôle. Ce qui m'amène à vous parler de cet article qui est le premier d'une série de 3 publiés dans la presse de ce matin, « Au front, les jambes coupées ». Et c'est une enquête réalisée auprès d'une 60aine de personnes concernant la gestion de la crise à Montréal. Et là, c'est le moment de commencer à regarder un peu avec le recul ce qui s'est passé depuis le début. Et surtout, je vous dirais, à la lumière de ce qui s'en vient, parce que c'est pas terminé. Et c'est pas n'importe qui parle, là. C'est la docteure Mylène Drouin qui dit, elle, que le gouvernement aurait dû gérer la pandémie à Montréal et qu'elle en a averti le docteur Arruda dès le début du mois de mars, le 9 pour être plus précis. Et je lui ai dit qu'à Montréal, ça allait flamber en premier. Et que s'il y avait une deuxième vague, elle serait encore plus grosse à Montréal. Voyant ce qui se passait ailleurs dans le monde, la densité de la population, les poches de pauvreté, l'état des centres de soins de longue durée, je parle évidemment du Grand Montréal, mais elle avait vu ça et avait dit « ça n'a pas de bon sens ». Il faut que les décideurs viennent à Montréal, il faut que ça se passe ici, pour que les décisions se prennent de façon efficace sur le terrain. Elle dit que son message a finalement été entendu et qu'on promet que des histoires de voir le docteur Arruda arriver plusieurs semaines après à Montréal, puis le premier ministre encore plus tard, sous prétexte qu'il voulait donner l'exemple de ne pas se déplacer, elle trouve que ça n'a pas trop d'allure. Et d'autres personnes, vous allez le voir dans les articles à venir, répètent un peu la même chose. Ce qui est encore plus troublant dans ça, c'est de voir le magma bureaucratique, l'incapacité à Montréal de gérer. Je cite, « Tout le monde savait que c'était impossible à gérer la santé publique à Montréal. » Le docteur Alain Poirier, qui est le DSP de l'Estrie, qui a été directeur national de la santé publique pendant 9 ans, dit que la situation dans laquelle se trouve Mylène Drouin est absolument inadmissible. Pourquoi? Parce que la santé publique n'a pas d'autorité sur les PDG des CIUSSS, les méga-centres de santé, créés par le Dr Barrette quand il était ministre. Et qu'elle-même, la directrice de la santé publique de Montréal, relève sur le plan administratif d'un VP adjoint d'un CIUSSS. Et qu'elle a une autorité sur une partie seulement de la main-d'œuvre. Autrement dit, on a une santé publique qui a été sous-financée. On a une santé publique, et là, vous allez voir tous les intervenants, là, ça inclut David Levine, et bon, qui regarde ça puis qui dit « ça n'a pas d'allure, là ». Puis des gens qui sont ailleurs puis qui ont déjà occupé le poste à Montréal. Manque d'effectifs, pogné dans la bureaucratie. Pas capable d'avoir les ressources, puis on est obligé de faire ça à la dernière minute pour administrer, et que on était comme dépendant. Quand les CIS ou les CIUSSS décidaient qu'on avait besoin de personnes dans les CHSLD et ailleurs, on coupait dans la santé publique. Pas un mot à dire, Dr Drouin. C'est de même que ça marche. Et elle ajoute, en parlant de Aaron, qui a été le symbole de départ de la dérape. C'est pas un cas d'éclosion, c'est un cas d'abandon. Il y en a eu d'autres, on l'a vu avec le rapport des forces armées. Alors, c'est intéressant de lire ça, parce que ça met un certain recul face à la gestion de la santé publique à Montréal. On se disait, mais pourquoi il y a cette espèce de difficulté de faire des tests? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi? Bien, on comprend un peu plus maintenant pourquoi, dans quelle situation... Dr Drouin est encore coincé, parce que la structure est toujours la même. Dr Barrette se défend en disant que c'est vrai que c'est peut-être trop pointu dans le détail, là, mais lui prétend que cette crise, c'est une mauvaise planification du gouvernement, qu'il y avait des plans qui existaient, et qu'on aurait dû, par exemple, comme d'autres provinces avaient décidé de le faire, commander de l'équipement plus vite et de répondre. Et ça, c'est sans parler du va-et-vient dans les zones chaudes-froides, qui existe encore, soit dit en passant, là, dans plusieurs unités du réseau. On va s'arrêter pour aller parler avec Marc, bien sûr. C'est quoi là? 6h14, est-ce qu'on a des bouchons? Est-ce qu'on a des objets perdus? Merci. Parlons des préposés aux bénéficiaires. On a compris hier au point de presse que le premier ministre est prêt à tout pour trouver 10 000 personnes et de les former rapidement cet été pour œuvrer dans les centres de soins de longue durée. Quand je dis tout, là, c'est non seulement donner des primes actuellement, d'augmenter le salaire, c'est d'offrir, on le sait, une formation payée, offrir un poste quand même payant au départ et aussi aller du côté de l'immigration pour trouver des travailleurs. C'est ce qu'a annoncé le ministre Jolin Barrette, parlait de 500. Puis François Legault a dit, ben ça sera peut-être plus si on trouve des gens pour le faire. Alors là, c'est sûr que ça a un effet un peu... boomerang. Je comprends, là, ces gens-là, les préposés, là, sont sous-payés, vivent des conditions de travail qui n'ont pas de sens, ça a été toléré par tous les gouvernements. Et là, tu as besoin de main-d'œuvre. Tu comprends? Puis ils ne veulent pas y aller. Tu as beau afficher des postes, là, ça n'intéresse pas grand monde. Fait que là, tu fais quoi? La loi de l'offre et de la demande. Tu dis, parfait, bah, t'as augmenté ton salaire. Même à ça, ça se bouscule pas. Là, tu dis, écoute, t'as pas de job, là, il y a un taux de chômage élevé au Québec. On va te donner une formation, puis on va te payer. Puis en plus de ça, là, juste dans la mise en marché, on va faire une campagne pour recruter du monde. Le premier ministre sort Marie Laberge en point de presse pour dire, regardez comme ça peut être beau comme job. Puis c'est vrai, il y a raison sur le plan humain, parce qu'il y a des belles histoires dans les centres de soins de longue durée. Il y en a un certain nombre, c'est le dérapage total, mais il y en a beaucoup où il y a des histoires d'implication des gens qui travaillent avec les aînés. Et pas toujours strictement le niveau médical, c'est le niveau d'approche du réconfort, un soutien psychologique. Mais là, vous avez des autres qui disent en arrière, t'as peu, là. Moi, comme enseignant, là, tu vas lui donner à peu près mon même salaire là, que quand je rentre. Là, j'ai d'autres gens qui, par exemple, travaillent dans le domaine de l'imagerie, des techniques médicales, qui disent, On a fait des études pour ça. Puis là, c'est la bataille des pourcentages puis des primes. Fait que quand tu donnes à un groupe, les autres disent « Hey, va lâcher ma job puis je vais aller chercher une formation comme préposé aux bénéficiaires. » Sauf que préposé aux bénéficiaires dans un centre de soins de longue durée, là, c'est pas juste une question de paye. Il y a une question de vocation aussi, jusqu'à un certain point, d'avoir le goût d'aider. Ben, c'est pas facile. Donc, vous voyez un peu les réactions que ça amène. Est-ce qu'on est capable de trouver autant de personnes? Est-ce que la formation qu'on va leur donner, 300 heures, on peut vous dire qu'il y a des préposés qui ont fait la formation réelle, là, qui est du double et même plus, là, qui disent, même avec la formation, je pense que c'est 800 heures, là, on a de la difficulté quand on arrive terrain de faire le travail parce que c'est complexe, pas facile. Il faut s'adapter aux différents bénéficiaires. Alors, c'est sûr que c'est un grand défi et on a hâte de voir combien de gens vont, évidemment, embarquer dans cette opération. Laissez-moi vous parler des écoles et des services de garde. Donc, 1er juin, ça c'est lundi, on ouvre les services de garde dans le Grand Montréal. La capacité, c'est autour de 30 %. La question qu'on s'est tous posée quand on a ouvert bon, les écoles primaires, mais aussi les services de garde à l'extérieur du Montréal métropolitain, quel serait l'effet? Fréquentation scolaire, organisation des lieux, les services de garde. Et forcé de constater, puis il faut le dire aussi quand ça marche, là, que ça semble assez bien se dérouler. Il y a au total, là, et ça a été confirmé hier par Dr Arruda, sur les cas d'enfants qui ont été contaminés ou encore de membres de l'école, professeurs et autres, là, il y a eu même des fermetures d'école, c'est une quarantaine de personnes environ là, qui ont été touchées. Il n'y aurait pas eu de cas majeurs, si on veut. En gros, il y a eu des symptômes, peut-être un peu plus sévères dans un cas ou deux. Mais bref, au total, 41 élèves et enseignants infectés à la COVID-19. Ce qui était d'ailleurs assez prévisible. Alors, il y a eu quand même, on le voit, un contrôle de la situation. Deuxièmement, pas entendu beaucoup de griefs. Et s'il y avait eu des problèmes, je pense qu'on aurait entendu les syndicats se manifester un peu plus. Au début, il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus, mais finalement, ça semble s'organiser. Et puis tantôt, je vais parler avec une responsable de CPE qui, donc, a offert le service depuis presque 3 semaines maintenant. On va voir ensemble un peu comment ça s'est passé. Ça a été quoi les difficultés, comment ils ont surmonté ça. Pour ce qui est des écoles, là, il y a comme un virage qui se fait. Le ministère de l'Éducation qui, au départ, disait, rappelons-nous, là, c'est comme des vacances au début, les 2 premières semaines. Là, après ça, on a dit, bien, il faut que les profs s'impliquent. Et on va se le dire, là, c'était à, je dirais, différents niveaux. Il y en a qui ont été extraordinaires, qui se sont impliqués, qui ont été créatifs, il y en a d'autres qui n'ont rien fait, ou presque. OK? Puis là, il faut être capable de se le dire. Il y a même des enseignants qui me disent, qui m'écrivent, là, je parle à beaucoup d'enseignants, ou enfin, je lis beaucoup de messages, j'en connais aussi. Il y a des collègues, puis là, c'est ce que c'est la faute de l'école, c'est la faute de qui? Oublions, là. Mais comme parent, tu sais qu'il y a des profs qui ont été présents, puis d'autres absents. Là, il y a une nouvelle directive qui est envoyée. Et je vous donne l'exemple. Pour le scolaire, donc. Alors, pour ce qui est de l'enseignement à distance, même pour le préscolaire, il y a 3 rencontres Zoom, vidéoconférence, par semaine, données par l'enseignante, qui sont maintenant obligatoires. Là, c'est pas un choix. Les parents doivent s'assurer que l'enfant est là pour la vidéoconférence. Puis là, ça va varier. Puis là, vous avez un calendrier, puis c'est à vous de vous ajuster pour être présent. Et les parents qui disent, c'est un peu là. Passe peu de choses, pour ne pas dire rien pendant un bout de temps, et soudainement, bang, ça devient obligatoire d'ici la fin de l'année scolaire. Puis là, on est en télétravail, comment est-ce qu'on s'organise? J'ai d'autres parents qui me disent, avec des élèves un peu plus vieux, là, tu sais, avant, il n'y avait rien là, puis c'était pas grave. Là, maintenant, et ce qu'on reproche à beaucoup d'enseignants, c'est comme d'arriver avec la brouette, puis voici les travaux à faire, puis remettez-moi ça dans 10 jours, ou voici les exercices. Bref, on trouve que la préparation n'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, je reçois les courriels de bêtises de profs. Ça me dérange pas. Mais il faut être capable de se dire ça. Il y a des profs qui ont fait du travail remarquable. Il y a des parents aussi, et souvent ce sont les parents pour qui l'éducation n'est pas trop importante et qui ont des enfants qui ont des problèmes. Et ces parents-là sont absents. Une enseignante qui me disait, dans ma classe, là, les 6 meilleurs sont toujours là. Puis ceux, puis il y en a beaucoup, là, qui ont des problèmes, totalement absents. Pas capable de les joindre. T'as beau multiplier les invitations, ils sont pas là. Fait que c'est sûr qu'une responsabilité collective. Ça a pris du temps à s'équiper comme du monde, puis c'est pas tout le monde non plus qui a un ordinateur, puis on a vu comment on a fait cette corvée pour essayer de trouver des tablettes, puis bon. Mais là, il faut se préparer aussi, parce qu'on sait pas à quoi ça va ressembler en septembre. On comprend qu'idéalement, il faut que ça soit dans des espaces réels et sortir du virtuel, en tout cas le plus possible. Il y a combien de parents qui se disent « Hey, ils m'ont fait quoi, moi, rendu au mois de septembre? » Une semaine sur deux, mettons, à la maison, mon ado, on va pas le laisser tout seul à 13 ans, voir s'il va être... C'est plein de questions et on n'a pas nécessairement les réponses. Aussi, ce matin, rapidement, on va revenir sur, encore une fois, cette soirée de violence. Hier, suite à la mort de cet homme noir aux mains de policiers. On a vu les manifestants qui disent carrément que c'était un meurtre. Le frère de la victime dit que son frère a été tué par 4 policiers, un en particulier, des policiers qui ont été congédiés. Pour l'instant, il y a une enquête, mais il n'y a pas d'accusation, ce qui ajoute à la tension. Et puis hier, ben, des protestataires qui ont brisé des fenêtres, qui ont chargé, qui ont passé par-dessus les clôtures pour s'en prendre à un poste de police à Minneapolis et pour mettre le feu à l'établissement. Vous avez également, dans une autre ville, parce qu'il y a eu des manifs hier dans plusieurs villes, New York, Denver, Phoenix, Columbus, Louisville, il y a 7 personnes qui ont été blessées par balles. Il semble que les coups de feu venaient de la foule. La police dit qu'il n'y a aucun coup de feu qui a été tiré par les policiers. Mais donc, Louisville au Kentucky. Et dans cette ville, il y a eu une femme qui avait été qui a perdu la vie lors d'une confrontation avec la police. Et ça s'était passé il y a quoi? Quelques mois, c'était au mois de mars. Et tout ça a mis énormément de pression. C'est une jeune femme de 26 ans, alors avec Richard Châteauvert. On va regarder les détails de ça tantôt. Allons-y avec l'autoroute 40.